Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir.
Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles.
Aujourd'hui, on vous emmène à bord d'une péniche pour renverser votre image des troubles mentaux.
Mais d'abord, les derniers chiffres de l'inflation ont été publiés. On va les analyser avec notre spécialiste.
Nous sommes le mercredi 31 mai. Je m'appelle Sandrine Puissant.
Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
L'inflation est en baisse ce mois-ci en Belgique. D'après les derniers chiffres de Stadbel, elle s'établit à 5,2%.
Comment expliquer cette diminution? Est-ce une bonne nouvelle pour nos portefeuilles? Est-ce que cette tendance va perdurer? Julien Bossler traite des questions de consommation au sein de la rédaction. Il a lu le rapport de Stadbel. Il détaille avec nous ses principaux enseignements. Bonjour Julien.
Bonjour Pierre.
Stadbel, l'office belge des statistiques, a donc publié ses chiffres pour le mois de mai 2023. Le chiffre principal, celui de l'inflation, il diminue. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, Julien, on doit se réjouir.
Ah oui, effectivement, on voit que l'inflation est en décrue constante depuis 3 mois maintenant. Et donc, c'est une bonne nouvelle de manière générale, en tout cas, tant pour les consommateurs, en fait, que pour l'ensemble des acteurs de l'économie, en réalité.
Comment on peut expliquer cette baisse? C'est la diminution des prix de l'énergie qui justifie à elle seule toute cette tendance?
C'est principalement ça. Donc, effectivement, on avait connu, rappelez-vous, une cruelle flambée des prix de l'énergie l'an dernier. Et donc c'était assez difficilement imaginable que ça se poursuive. En fait, il y avait un décalage entre l'offre et la demande de manière globale dans l'économie mondiale, juste après la période Covid. Et donc tout cela s'est un petit peu plus rééquilibré. Et effectivement, on voit que les prix énergétiques ont diminué, tant et si bien que maintenant, l'énergie ne contribue pas à alimenter l'inflation, mais plutôt à la tirer vers le bas.
C'est quoi qui alimente l'inflation? Alors, si les prix de l'énergie, ils ont tendance à la tirer vers le bas, il y a encore quelque chose qui agit comme moteur de l'inflation?
Oui, alors il y a les services qui expliquent l'augmentation de ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, qui ne prend pas en compte justement l'évolution des prix de l'énergie et de l'alimentation non transformée. Et donc ça, cette inflation sous-jacente, c'est pas une très 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 bonne nouvelle de la voir repartir légèrement en hausse, parce qu'en fait, c'est un des outils dont se sert la Banque Centrale Européenne pour fixer son taux directeur. Donc, quand l'inflation sous-jacente grimpe, eh bien, ça a de quoi inciter les taux d'intérêt à grimper.
On a évoqué les prix de l'énergie, on a évoqué les services. On peut aussi se concentrer sur le prix des produits alimentaires. Ils évoluent dans une très légère baisse, on peut plus ou moins dire ça comme ça?
Oui, c'est ça. Donc, ils continuent encore à décroître, mais ils restent quand même à un niveau extrêmement élevé. On est encore à 15% de différence entre ce mois de mai et le mois de mai 2022. Et donc, c'est quand même relativement pénible à vivre pour les consommateurs. Ça reste difficile, en fait.
Est-ce qu'on peut plus ou moins évaluer comment ont résisté les consommateurs? Comment a fait le Belge pour réussir à plus ou moins maintenir son niveau de consommation malgré des prix qui n'ont cessé d'augmenter?
En fait, les consommateurs, dans ce genre de période, ils mettent en route toute une série de parades pour pouvoir maintenir un certain niveau de consommation, mais tout en dépensant pas autant que ce que ne le voudrait l'inflation, si je puis dire. On appelle en fait cet effort, de manière technique, on l'appelle le « down trading ». Donc en fait, ça mesure notre résistance de consommateurs par rapport à l'inflation. Alors l'année dernière, ce down trading, tout à fait classique en période inflationniste, a permis aux consommateurs de s'épargner en moyenne 2/3 de l'inflation. Hein, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre l'augmentation des prix en magasin et ce que nous, consommateurs, nous payons réellement à la caisse. Mais force est de constater qu'on arrive au bout de cette capacité de résister à l'inflation parce que les produits alimentaires, ils ont augmenté, ils continuent à rester à un niveau élevé. Tant et si bien que aujourd'hui, les Belges sont passés de 2/3 de l'inflation, donc ils parvenaient à se passer, à juste 1/3.
Si on donne des exemples très concrets, le down trading, c'est quelqu'un qui, pendant des années, a été habitué à faire ses courses dans un magasin d'un certain standing et qui, avec l'inflation, avec l'augmentation des prix, va changer de magasin, aller dans un commerce peut-être un petit peu plus abordable. Donc, il va pouvoir continuer à acheter les mêmes produits, mais en les payant moins cher. C'est un exemple qui tient la route?
Oui, c'est ça. Donc, c'est l'idée de passer d'une enseigne assez traditionnelle à une enseigne discount, par exemple. c'est aussi l'idée d'acheter des produits moins chers. Par exemple, d'acheter des produits de marques distributeurs par rapport à des marques nationales, voire acheter vraiment les tout premiers prix.
Tous les consommateurs peuvent adopter ce type de comportement parce que si on est déjà le dos au mur avant que l'inflation ne commence à augmenter, on ne va pas vraiment pouvoir se tourner vers des alternatives si on va déjà au moins cher.
Effectivement, et c'est pour ça qu'en fait les consommateurs ne sont pas égaux face à l'inflation. Comme vous le dites, eh bien, si on ne dispose pas de moyens financiers importants, on s'est déjà adapté à cette réalité-là. Et donc, on a une capacité d'adaptation à l'augmentation des prix qui est beaucoup plus faible que si on a un revenu, un pouvoir d'achat plus important. Et donc, voilà, quand on appartient à la classe moyenne, moyenne supérieure, classe supérieure, eh bien, effectivement, se prêter à ce down trading, c'est beaucoup plus simple que quand on est vraiment dans une situation compliquée au niveau financier, quoi.
Pour terminer, je vais vous demander un petit exercice un petit peu difficile. On a dit que le chiffre général de l'inflation diminuait, celui de l'inflation sous-jacente augmentait. Au final, est-ce qu'on doit être réjoui ou pas ?
Il faut être confiant en l'avenir, je dirais. Donc, disons que c'est plutôt bien parti, mais que l'inflation ne diminue pas tel qu'on pourrait l'espérer. Donc, il faut être confiant, il faut être patient. C'est peut-être ça le mot-clé, c'est la patience par rapport au reflux de l'inflation. Ça va mieux se passer. Le bureau du plan le projette. Hein, donc, plus les mois vont passer, plus on aura effectivement une inflation qui sera moins élevée. Cependant, il faut rester conscient qu'on ne va probablement pas connaître les niveaux de prix qu'on connaissait juste avant l'inflation.
Merci beaucoup Julien.
Avec plaisir Pierre.
Bouche à oreille.
Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. On vous parle aujourd'hui d'un documentaire qui va bousculer l'image que vous avez des personnes atteintes de folie.
Le film Sur l'Adamant a reçu l'Ours d'Or à la Berlinale et sort ce mercredi en Belgique. Il vous emmène sur une péniche amarrée sur la Seine, à Paris. Le bateau est en fait un centre de jour qui accueille des personnes souffrant de troubles mentaux. Gaëlle Moury, journaliste cinéma, nous dit pourquoi ne pas manquer ce film.
Ce qui est assez fantastique avec ce film, c'est que c'est pas un film qui vous dit quoi penser, c'est plutôt un film qui se reflète en vous, qui vous offre un autre regard sur la vie, sur vous, sur ce qui vous entoure. Ça montre surtout que les fous sont pas forcément ce qu'on croit. Ça change l'image qu'on peut avoir des maladies mentales. C'est un documentaire qui nous plonge au cœur d'un centre de jour un peu particulier. C'est un bateau sur un quai de la Seine où ces personnes qui ont des troubles mentaux apprennent à aller mieux, apprennent à retrouver un lien avec la société. C'est un endroit qui semble un peu hors du temps. Moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est l'humanité des gens que Nicolas Philibert filme. Il y a un tas de gens qui sont très artistes, qui sont un peu perchés dans leur univers, mais qui sont extrêmement touchants par ce qu'ils disent. Et c'est des gens très conscients aussi de leur état, souvent. Nicolas Philibert, le réalisateur, c'est pas un petit jeune venu, il travaille depuis une quarantaine d'années. On lui doit des films comme La Maison de la Radio, Être et Avoir. C'est vraiment un grand réalisateur de documentaires dans la tradition française. Et c'est vraiment pour moi un des films immanquables. C'est pas un documentaire plombant, c'est un film lumineux. Ça s'appelle Sur l'Adamant, c'est réalisé par Nicolas Philibert et ça sort ce mercredi dans les salles.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à parler de notre podcast et à partager nos épisodes autour de vous.
À demain.